France Info.
Bonjour Adrien Quatennens.
Bonjour.
L'Algérie se réveille sans Bouteflika à sa tête donc ce matin. Qu'est-ce que vous dites? Bon débarras?
Surtout, je salue le peuple algérien pour sa magnifique démonstration. Il montre, le peuple algérien, qu'il est possible qu'une grande mobilisation populaire de masse ait raison d'un pouvoir oligarchique qui était maintenant extrêmement concentré. Je crois qu'on doit en tirer quelques enseignements. Moi, je crois à cette action de masse, pacifique, déterminée. Je pense que c'est la bonne méthode, c'est la bonne solution. Le peuple algérien décroche une première victoire. Maintenant, bien sûr, il faut toute la vigilance sur la suite, puisqu'on sait que autour d'Abdelaziz Bouteflika, il y a plusieurs camps, en réalité, clans, mais qui maintiennent, disons, le pouvoir tel qu'il existait. Il y a bien sûr le camp Bouteflika, sa famille, il y a l'armée, il y a les services secrets. Donc, comme ça a été dit dans votre reportage, c'est une première étape. Maintenant, il faut passer à la suite. Mais en tout cas, un salut amical au peuple algérien qui réussit une grande victoire.
Un mois et demi de manifestation, pas un blessé, pas un mort. Est-ce qu'on a des leçons à recevoir de ce qui s'est passé de l'autre côté de la Méditerranée?
Je crois que je viens de vous le dire et je le répète. Moi,
on pourrait s'en inspirer ici.
Je crois que le meilleur rapport de force face à un gouvernement qui est contesté, c'est une mobilisation, une action de masse dans le calme, pacifique, où les gens n'ont pas à se poser la question de savoir s'ils doivent se soucier de leur sécurité pour venir manifester, où on peut venir en famille sans crainte pour soi et ses proches. Voilà ce à quoi je crois.
Oui, et il n'y a pas eu de casseurs.
Évidemment, et c'est pour ça que moi, depuis 4 mois que la mobilisation en France existe, je prône cette idée que la violence n'est pas une bonne décision. D'abord stratégiquement, c'est pas d'un point de vue moral uniquement que je me situe, c'est que je vois bien comment ça se passe. Des tas de gens qui sont en soutien aux revendications du mouvement de contestation populaire que l'on connaît en France hésitent précisément à venir manifester parce qu'ils ont vu des scènes de violence. Donc, par contre, je veux dire une chose quand même, c'est que moi qui suis attaché à l'idée de mobilisation pacifique et à l'action non violente, j'observe depuis le début de ce mouvement, avec la répression d'une part, mais avec aussi la stratégie du pourrissement qu'a joué le gouvernement, ça fait 4 mois quand même que ça dure, admettez que si on avait une réponse politique dès le début, on n'en serait pas là. Vous avez des gens qui sont entrés dans le mouvement avec une foi intacte dans l'action de masse pacifique et qui aujourd'hui finissent par vous dire peut-être que finalement la violence est une solution. Moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est la responsabilité du gouvernement que des gens qui sont entrés dans le mouvement et dans l'action collective de manière pacifique finissent par le penser. C'est la faute de ce gouvernement, des 4 mois qu'il a passé à essayer toutes les diversions, à faire dire aux gilets jaunes autre chose que ce que ce mouvement dit. Et aujourd'hui on se retrouve dans un point de rupture, d'impasse, qu'on ne parvient pas à solder puisque le gouvernement ne veut pas qu'il y ait de décision collective.
Renaud Dely.
Pour en revenir à la situation en Algérie et aux mobilisations massives aussi, il y avait une ampleur particulière et probablement plus importante d'ailleurs que ce qu'on a vu en France quand même ces dernières semaines. Quel peut être maintenant le rôle de l'armée? Est-ce qu'on peut faire confiance à l'armée pour organiser une vraie transition démocratique et une élection présidentielle libre dans quelques mois?
Honnêtement, la question se pose. Moi, je crois qu'il faudra, y compris que la communauté internationale soit vigilante à la manière dont le processus démocratique va se dérouler. Moi, j'ai confiance dans le peuple et sa capacité, puisqu'il a été capable d'en finir avec Abdelaziz Bouteflika, qui était en fin de règne. Je crois qu'il a la capacité d'imposer sa vigilance sur la suite du processus démocratique. Honnêtement, pas grand monde aurait parié il y a quelques jours encore sur le fait qu'il allait y avoir une démission d'Abdelaziz Bouteflika. La question restait posée. Donc maintenant qu'il a obtenu ça, je crois que le peuple algérien mobilisé, d'ailleurs je crois qu'il va continuer à se mobiliser, va obtenir un processus démocratique stable.
Communauté internationale vigilante, dites-vous, que doit faire la France?
Pas d'ingérence d'abord. Bien évidemment, il y a la question particulière de notre histoire avec l'Algérie, mais je pense qu'il faut être bienveillant, vigilant, mais surtout se garder de toute tentative d'ingérence qui serait malvenue.
Vous trouvez qu'Emmanuel Macron, depuis le début de cette crise algérienne, a eu la bonne distance?
Globalement, oui. Je crois que voilà, on n'a pas fait plus qu'il ne fallait. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment au peuple algérien qu'il faut attribuer cette victoire. C'est une première étape. On pourrait simplement être levé d'enthousiasme ce matin par ce qui s'est passé, c'est le cas, mais ensuite, vigilance, après cette première victoire, regardons ce qui va se passer dans les prochaines semaines.
Adrien Quatennens, France Info révèle ce matin que l'ancien patron de Renault, Carlos Ghosn, a fait valoir ses droits à la retraite et qu'il va donc toucher un peu plus de 760 000 euros par an à vie. C'est légal, mais est-ce que pour vous c'est moral?
Non, ça ne l'est pas. Vous savez, moi je crois profondément, et c'est le cas aussi avec la retraite chapeau, le parachute doré là qu'on a vu chez Airbus. En réalité, la réalité, c'est que la question qui est posée, c'est est-ce qu'aujourd'hui de telles rémunérations rétribuent un véritable talent, une véritable réussite, et surtout à quelle proportion? Moi, je crois que la bonne solution dans les entreprises pour faire en sorte que tout le monde avance collectivement, c'est de limiter l'écart de revenus. C'est pas confiscatoire cette affaire. La Confédération européenne des syndicats propose un écart des salaires de 1 à 20. Nous avons fait cette proposition nôtre lors de la campagne présidentielle et nous l'avons d'ailleurs reproposée à l'Assemblée dans les débats qui nous animent. Je crois que un rapport de 1 à 20 entre le salaire le plus bas dans l'entreprise et le plus haut permettrait d'avoir de la vertu au sein de l'entreprise. Et puis surtout, ça n'est pas confiscatoire. Si tout en haut de la hiérarchie, on veut maintenir des niveaux de salaire qui sont importants et qu'on en a les moyens, alors on peut le faire. On peut le faire, mais en vertu de l'écart des salaires de 1 à 20, on doit aussi augmenter la rémunération des bas salaires. Et puis vous savez que en matière de rémunération des bas salaires, on voit que qu'est-ce qui se passe quand vous augmentez les revenus des bas revenus ? Eh ben, les gens consomment, les gens font de la consommation populaire et ça relance.
Il faut du ruissellement par le bas.
Ben, ce qui se passe en tout cas, c'est que voyez-vous, par exemple sur l'affaire des gilets jaunes, le gouvernement a concédé 10 milliards, alors sans doute très mal dépensés, mais en attendant, on voit que ces 10 milliards injectés dans l'économie réelle ont permis qu'il y ait un résultat de croissance. Alors moi, je suis pas pour la croissance à tout prix, mais en tout cas, on voit que 10 milliards investis dans la consommation, injectés dans la consommation, ça relance l'activité.
Ils étaient les bienvenus, c'est un
mais
coup,
raison
un coup
pour laquelle c'est loin d'être suffisant au vu de ce qui est réclamé en matière de justice fiscale et tout le reste, mais en tout cas, ça fait la démonstration que quand vous augmentez les bas salaires, les bas revenus, quand vous injectez de l'argent, notamment pour les Français les plus modestes, il y a de la relance de la consommation populaire. Et cette affaire peut d'ailleurs faire le lien avec plein de choses. Vous augmentez les salaires, vous augmentez la consommation, vous créez de l'activité, il y a aussi des cotisations qui rentrent. Tout ça a un effet vertueux. Et je crois que c'est plus efficace qu'une politique fiscale qui vise à donner à ceux qui ont plus ou à faire des cadeaux aux entreprises sans contrepartie.
On évoquait une retraite bien particulière, celle de Carlos Ghosn, mais le gouvernement a engagé une réforme des retraites pour aller vers une retraite par points. Il y a un flou, un certain flou, entretenu par certains ministres sur l'âge de départ légal en retraite. Agnès Buzyn a évoqué l'idée de travailler plus longtemps, puis elle a reculé. Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, réclame de la clarté et lui, le respect des engagements du gouvernement ne pas toucher à l'âge de départ de légal en retraite.
Bon, c'est une astuce de la part de M. Delevoye parce qu'en réalité, je vais vous le dire, la retraite par points, c'est de fait la mise en cause de l'âge légal de départ. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez un système de retraite qui fait que vous cotisez, puis ensuite, vous avez votre pension, vous savez à l'avance combien vous allez avoir. Avec le système par points que veut mettre en place M. Delevoye, vous allez cumuler des points tout au long de votre carrière, et puis à la fin de votre carrière, quand vous pourrez aspirer à prendre votre retraite, vous allez transformer votre stock de points en pension de retraite, en fonction du coefficient au moment où vous allez partir. Mais si votre pension de retraite est très faible à ce moment-là, âge légal ou pas, vous allez être encouragé à continuer.
Donc la retraite par point, c'est fini de fait.
La retraite par point, pour moi, c'est le travail sans fin. Donc il y a d'un côté M. Delevoye qui nous dit on va faire la retraite par point, mais on touche pas à l'âge légal. En réalité, l'âge légal de fait n'a plus de sens dans le cadre d'une réforme
Alors
de retraite par
point. Pourquoi il fait ça aujourd'hui ? Il fait semblant de se fâcher ?
Non, je crois qu'il a sûrement envie, pour la forme, de pouvoir continuer à dire clairement qu'il ne touche pas à l'âge légal de départ, puisque c'est quand même un point qui est sensible. Et dans le même temps, messieurs Darmanin, le maire et d'autres pensent qu'il faut clairement dire on recule l'âge de départ. Moi, je pense que sur cette question-là, il faut être très clair. Aujourd'hui, la retraite par points, ce sera le fait de ne pas avoir la moindre visibilité sur ce que vous allez gagner en fin de course. Et puis surtout, ça va permettre de diminuer chaque année la valeur des points et donc la question des pensions. Moi, je vous le dis, en matière de retraite, c'est tout à fait finançable. La retraite à 60 ans pour 40 annuités à taux plein. Et regardez, si on augmente les salaires de 1%, je vous parlais à l'instant des bas revenus, vous augmentez les salaires de 1%, ça fait 2,5 milliards de cotisations supplémentaires. Vous créez 100 000 emplois. Moi, par exemple, je veux faire la transition écologique. Pour faire la planification écologique, juste dans le modèle agricole, il me faudrait 400 000 paysans. Vous créez 100 000 emplois, c'est 1,3 milliard de cotisations. Donc, on peut faire d'autre chose que de forcer tout le monde à travailler sans fin, alors que, précisément, ils nous disent il faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. Mais, messieurs, dames, souvenez-vous d'une chose, c'est que si on vit plus longtemps, c'est précisément parce qu'on travaille moins longtemps.
Une petite pause sur France Info à 8h41, le temps de retrouver Lauriane Delanoë pour le rappel des titres de l'actualité de ce mercredi matin.
Plus d'un mois de manifestation, la pression de l'état-major de l'armée. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a cédé, il démissionne, il a remis sa lettre hier au président du Conseil constitutionnel. C'est maintenant le président du Conseil de la Nation qui assure l'intérim. Carlos Ghosn veut dire sa vérité sur les accusations de malversation financière. Un tweet au nom de l'ancien président du groupe Renault, ancien PDG de Renault, annonce une conférence de presse la semaine prochaine. Elle se fait la porte-parole de la communauté transgenre. Julia dénonce sur France Info des violences quotidiennes, destructrices et inacceptables. Cette femme transgenre agressée, sexuellement frappée et insultée dimanche, place de la République à Paris. 3 millions de personnes vivent sans mutuelle en France, des travailleurs précaires, des chômeurs et des personnes inactives, notamment d'après la DRES, le service statistique des ministères sociaux, a publié ce chiffre ce matin. Rennes, équipe flamboyante cette saison, le Stade Rennais a battu Lyon hier soir en demi-finale de Coupe de France de football. Alors qui remportera le second billet pour la finale ? Le PSG affronte Nantes ce soir. France Info.
Le député de la France Insoumise du Nord, Adrien Quatennens, c'est l'invité de France Info avec Renaud Dely.
La campagne européenne de la France Insoumise patine un petit peu, on l'a vu dans les sondages récents qui vous estiment autour de 8%. Et même Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France Insoumise, sonne l'alerte. C'était il y a quelques jours en meeting à Saint-Brieuc.
C'est le moment de vous bouger. Ceux qui se bougent le moins, paraît-il, c'est nous. Ils disent que nous sommes le taux le plus bas de participation à l'élection européenne. C'est les insoumises et les insoumis. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un devoir pour moi de vous dire alerte.
Pourquoi ça ne marche pas, Adrien Quatennens ?
Alors d'abord, je corrige, c'est pas la campagne qui patine, parce que la campagne se mène avec la liste emmenée par Manon Aubry à bon rythme. C'est-à-dire que sur le terrain, je crois qu'on est une des seules forces politiques à faire campagne. Je vois que les militants sont à l'action tous les jours, il y a des meetings, il y a des grandes réunions, donc la campagne se mène, et honnêtement, si vous la regardez de près, elle se mène bien.
Maintenant, alors pourquoi Jean-Luc Mélenchon s'inquiète ?
D'abord, il y a la question des sondages. Je mets de côté certaines manipulations. Vous avez vu que certains sondages qui donnent le détail nous expliquent qu'on est à 0% chez les étudiants, à 0% chez les inactifs, à 0% chez les élèves, ce qui paraît hautement improbable. Mais c'est une vraie question, que la question des sondages et de leur fonctionnement.
Vous dites, on met de côté les sondages, on va y revenir. Vous soupçonnez certains instituts de sondage de bidonner les chiffres.
Je vais être assez clair, je dis vite parce que je ne veux pas focaliser l'attention là-dessus et répondre
vraiment
à la question.
On ne fera pas toute l'émission là-dessus.
Quand il y a un des instituts de sondage qui récemment nous donnait, vous savez, derrière Europe Écologie des Verts,
lequel,
ce qui paraît tout à fait contestable. Je crois que c'était BVA.
Bon, on ira vérifier, évidemment. Oui.
On regarde le détail. Et alors qu'au global, ils nous mettent derrière Europe Écologie des Verts, quand vous regardez le détail CSP par CSP, on est toujours devant. Alors on leur pose la question, comment se fait-il qu'un résultat global soit différent que ce que vous trouvez dans le détail ? Ils nous disent parce qu'il y a des catégories qu'on ne vous a pas montrées, et puis ils finissent par le dire, il y a les élèves, les inactifs et les étudiants, vous êtes à 0%. Jean-Luc Mélenchon a été le candidat à la présidentielle qui a fait le plus de voix chez les jeunes, ça nous paraît improbable. Mais mettons ça de côté.
J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon s'inquiète, c'est lui qui sonne
l'alarme, c'est lui qui vous explique. Oui, bien sûr, parce que par ailleurs, ce que dit Jean-Luc Mélenchon dans l'extrait que vous avez passé est juste. C'est qu'à chaque fois que les instituts de sondage nous montrent leurs résultats, il y a un fait qui revient tout le temps, c'est que contrairement aux autres formations politiques, qui sont aujourd'hui au score que les sondages leur donnent avec un fort taux de mobilisation de leur électorat, les sondages indiquent que notre électorat, au sens large, je déteste parler comme ça, mais n'est pas mobilisé. C'est-à-dire, en gros,
Il s'est évaporé en cours de route depuis la présidentielle.
Non, c'est un électorat qui est peu mobilisé, à mon avis, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que comme l'actualité nationale et le mouvement de contestation populaire qu'on connaît fait que la plupart des gens qui sont avec nous, ils sont engagés, eh bien, ils pensent que l'élection européenne, même si elle arrive bientôt, le 26 mai, est encore secondaire. Donc nous avons besoin de faire une démonstration. Attendez, laissez-moi vous dire ça.
Je comprends pas, parce que vous avez collé au mouvement des Gilets jaunes depuis le début, mais au contraire, vous pensiez en tirer profit.
Non, pas dans un souci de se dire pour qui vont voter les Gilets jaunes, c'est pas le sujet. Parce qu'aujourd'hui, les revendications posées nous conviennent, elles sont proches de notre programme, et ça c'est très bien. Mais regardez le tableau qu'on a sous les yeux. On a un pays qui, en gros, est à peu près de moitié encore aujourd'hui, les Français, à peu près la moitié des Français, soutiennent le mouvement des Gilets jaunes encore tel qu'il fonctionne. Mais bien plus de Français, une ample majorité, soutient l'essentiel des revendications. Vous le savez, sur l'établissement de l'ISF, c'est une écrasante majorité.
Selon les sondages. Ces sondages-là,
bien
ils
sûr.
Sont bons.
Non, mais je dis pas que les sondages sont faux. Moi, je regarde le détail, comment ça se passe. Mais j'ai pas dit que les autres étaient pas justes. Je dis que regardez précisément les méthodologies. Vous verrez que peut-être vous, il y a un travail journalistique à faire sur l'analyse des sondages et comment ça fonctionne. Mais je veux pas focaliser l'attention sur les sondages. Donc, je vous réponds politiquement. On a donc un pays qui est plutôt mobilisé majoritairement sur le fond, de manière assez proche de nous. Mais le résultat des sondages, du fait de l'abstention considérable, c'est que Monsieur Macron pourrait potentiellement tirer son épingle du jeu le 26 mai au soir. Et donc le 26 mai au soir, Monsieur Macron pourrait arriver devant vous et dire « D'aucuns voulaient une consultation populaire à l'issue de ces 4 mois de mobilisation. Elle a eu lieu, c'est les européennes. J'ai gagné, ravalez votre chapeau et maintenant Jean-Paul Delevoye, faites-nous la réforme des retraites. » Je le dis à ceux qui nous écoutent. L'abstention, dans un contexte comme celui-ci, est un cadeau fait à Emmanuel Macron. Par conséquent, le 26 mai, mobilisez-vous et prononcez-vous aussi sur la politique d'Emmanuel Macron. Parce que ce que fait Monsieur Macron en France est bien souvent directement traduit, c'est le cas notamment de la réforme des retraites, des directives européennes. Ensuite, sur le fond de la question européenne, le débat, je suis consterné par son niveau. C'est d'une pauvreté
abyssale. Sur cette
difficulté
à mobiliser vos électeurs, Adrien Quatennens, est-ce que vous faites une part d'autocritique ? Est-ce qu'il y a quand même des raisons qui vous sont dues à vous, peut-être à l'image de Jean-Luc Mélenchon ?
Mais on peut toujours ça. Alors, vous aurez remarqué que Jean-Luc Mélenchon n'est pas la tête de liste et qu'il est plutôt, en plus, quand il se présente dans les meetings, comme c'est le cas, une force pour nous. Enfin, vous voyez, c'est 7 millions de voix, Jean-Luc Mélenchon, à la présidentielle. C'est celui qui a porté notre parole, qui la porte toujours aujourd'hui, donc ça compte. Mais plus que ça, nous, notre marque de fabrique, c'était le cas à la présidentielle, et vous l'aviez d'ailleurs remarqué, c'est le fond. Ça fait depuis le mois de décembre que notre liste, emmenée par Manon Aubry, qui est vraiment à l'image de la société, est présentée. Ça fait depuis le mois de décembre que nous avons un programme que tout le monde peut consulter, pas une feuille programmatique, un vrai programme. Parce que moi, je suis absolument consterné par la faiblesse abyssale du débat sur les européennes. Regardez un peu, Madame Loiseau, l'Europe des solutions, l'Europe qui protège, blabla. Il n'y a rien sur le fond, il n'y a rien. Regardez les meetings, ils tiennent la tribune avec « Ah, bonjour Édouard Philippe, salut Édouard !» Et puis tout le monde applaudit. Mmh. Ensuite, François Bayrou arrive.
Donc
ah,
les Français
bonjour François.
C'est terrible. Les Français ont c'est rien terrible. Compris. Ils devraient voter pour vous qui avez un programme, une tête de liste crédible. Et pour l'instant,
mais
les
la question surtout, c'est que devons-nous faire?
Ils préfèrent des partis qui n'ont pas d'idée.
Que devons-nous faire sur la question européenne? Mmh. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Si nous voulons être à la hauteur, par exemple, sur la question climatique, moi, je refuse de faire de l'incantation. Hein, je laisse à La République En Marche les manœuvres politiciennes qui font que sur une même liste, vous avez tout et son contraire, des gens qui se disent écologistes et puis des gens qui soutiennent l'agriculture productiviste. De la même manière, je dois le dire, dans le débat des européennes, il faut trancher la question. L'écologie politique est-elle, oui ou non, soluble dans le libéralisme économique et dans les traités? Ben moi, je vous le dis, aujourd'hui, dans le cadre des traités européens, la règle des 3% de déficit nous empêcherait, en toute hypothèse, d'investir l'argent qu'il faudrait investir dans la planification écologique.
Par conséquent, en quoi les 3% sont un frein à la transition?
Alors,
tout dépend
GIEC,
où on met l'argent. Alors, où
le
on met
GIEC, attendez, oui. Le GIEC nous dit, vous avez 12 ans pour changer de modèle économique. Mmh. Pas pour verdir un peu le programme de M. Macron, pour changer de modèle économique, sans quoi la catastrophe est inéluctable. Et le GIEC nous dit aussi, pour le faire, il faut investir 2100 milliards d'euros à l'échelle de la planète, des centaines de milliards à l'échelle de nos pays, de l'Union européenne. Je vous le dis, et Nicolas Hulot l'avait dit lui aussi en démissionnant, dans le cadre des actuels traités et de la règle des 3%, vous ne pouvez pas le faire.
Donc
vous
il faut sortir des traités, c'est ce que dit Jean-Yves Blanchard. Comment sort-on des traités?
Attendez, je vous donne un autre, exemple qui est implacable dans le débat sur l'écologie.
Sans sortir de l'Union européenne.
Je vais vous répondre. Vous voulez aujourd'hui interdire le glyphosate, par exemple. Si vous voulez l'interdire ici en France, admettez que pour éviter la mauvaise concurrence de nos agriculteurs et pour éviter que les gens en mangent malgré tout,
il faut que ce soit fait au niveau de l'Europe.
Et il faut surtout éviter que les produits glyphosatés entrent sur votre territoire national pour éviter ces problèmes. Eh bien, dans le cadre des traités, qui ne pensent que liberté de la concurrence, vous ne pouvez pas le faire. Donc je vous le dis solennellement ce matin, toutes celles et ceux qui vous disent qu'on peut mener une politique écologique ambitieuse dans le cadre des traités européens, soit vous mentent sciemment, soit sont d'affreux naïfs. Et ça n'est pas à la hauteur du débat que nous devons avoir sur ces questions. Maintenant, je vous réponds, comment on sort des traités? Pour moi, la question, c'est si on arrive. Moi, je veux pas faire de la sortie un totem. Si je souhaite qu'on en sorte, c'est parce que.
C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il dit sortez des
aujourd'hui,
traités.
Aujourd'hui, les traités.
Il a fait toute une tribune.
Mais ce n'est pas un objectif politique en soi. C'est un outil, cette sortie. Parce qu'aujourd'hui, dans ce cadre précis, et je suis pas le seul à le penser, Arnaud Montebourg l'a dit récemment, Nicolas Hulot l'a dit en démissionnant, vous ne pouvez pas mener une politique ambitieuse socialement, écologiquement. Notez que, en matière sociale, les traités empêchent, c'est écrit noir sur blanc, l'harmonisation sociale et fiscale.
On va poursuivre cette discussion, donc, si vous voulez bien, Adrien.
Mais je pense qu'on peut en convaincre tous nos partenaires de l'Union européenne. Personne n'a intérêt à ce que cette affaire dure longtemps. Sinon, vous allez avoir des Brexit à tous les coins de l'Union européenne.
26,
voilà ce qu'il faut dire.
On va poursuivre.
Et puis,
si vous voulez bien cet entretien,
avec ceux qu'on arrive à convaincre, on fait autre chose. Je pense que c'est nécessaire.
Dans quelques instants, il est 9h10. Lauriane Delanoë pour le rappel de l'actualité.
Des klaxons jusque tard hier soir à Alger, mais pas de foule massive pour saluer la démission du président Abdelaziz Bouteflika. C'est un premier pas vers le succès, c'est un premier succès, mais on va continuer à marcher, confie une manifestante au micro de France Info. Un 24e soldat français tué au Mali hier, explosion d'un engin au passage de son véhicule blindé. C'était un médecin militaire de 30 ans qui servait pour le 120e antenne médicale du Mans. La taxe d'habitation sur les résidences principales supprimée pour tous les contribuables d'ici 2022. Confirmation dans la nuit par le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale. Theresa May puise dans ses ressources pour éviter un Brexit sans accord. La première ministre britannique veut demander un nouveau report à l'Union européenne et elle propose en même temps une rencontre à son opposant Jeremy Corbyn pour trouver un consensus. Rien ne nous arrêtera, lance cette nuit Juan Guaido. Le président autoproclamé du Venezuela vient de perdre son immunité parlementaire. Décision de l'Assemblée constituante pour permettre des poursuites pénales. Il est accusé d'usurpation de fonctions.
France Info. Le député La France Insoumise du Nord, Adrien Quatennens, est toujours avec nous sur France Info et avec Renaud Dely.
Pour lancer un grand emprunt populaire pour récolter des fonds pour financer votre campagne, c'est un lancement qu'a fait Jean-Luc Mélenchon il y a quelques jours. La France Insoumise a produit un clip ironique dans lequel sont reproduits des...
Un clip parodique
et ironique. On y entend des journalistes auxquels vous prêtez des propos mensongers, parodiques donc. Parmi ces journalistes, il y a notamment notre confrère Jean-Michel Apathy qui vous a répondu. Je vous propose d'écouter un extrait de ce clip et la réponse de Jean-Michel Apathy.
On apprend aujourd'hui que la France insoumise lance son emprunt populaire pour la campagne. Vous en pensez quoi ?
C'est le Venezuela.
Exactement. La France insoumise, c'est le Venezuela. Donc des véritables démagos.
Non seulement on utilise mon image, mais en plus on la détourne. On ne fait pas ce clip à propos d'un débat de société. Il ne s'agit pas d'être pour l'Europe, contre l'Europe, quelque chose. Non, c'est pour gagner du fric qu'ils font ça.
C'est étrange comme méthode de campagne, Adrien Quatennens.
Alors bon, d'abord, commencez par dire que cette idée d'emprunt populaire est un franc succès, puisque depuis que ça a été lancé dimanche...
C'était pas du tout la question de Renaud, mais ce sera votre première réponse.
Jamais que c'est pas ma question.
Bon, bah alors je commence par répondre à votre question, puis après on parle de l'emprunt populaire. Je crois que Jean-Michel Apathy a parfois des propos qui sont de fait assez parodiques et caricaturaux sur la France insoumise. Et d'ailleurs, je pense que les auditeurs qui ont écouté le clip, quoi qu'ils pensent de la méthode, vont pouvoir en rigoler, parce que franchement, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dans ce qui a été dit? C'est-à-dire quand on nous explique sans cesse, quand il n'y a plus d'arguments en général, c'est à la France insoumise, c'est le Venezuela, ce qu'elle n'a jamais prétendu être, elle n'a jamais dit que c'était un modèle pour elle. De la même manière, quand on dit, voilà, quand même, ils sont dangereux, ils sont démagogues, ou alors, oui, ce sont des islamo-gauchistes, tout ce qu'on entend en fait. C'est-à-dire que à un moment donné, je crois qu'on est tellement, entre guillemets, fiable et solide sur le fond, que vous remarquez que souvent dans le débat public, médiatico-politique, il y a des points Godwin comme ça
de
qui...
Campagne,
mais,
un de vos concurrents publiait, diffusait un clip en prêtant des propos mensongers à Jean-Luc Mélenchon.
Attendez,
ça vous choquerait pas?
Personne ne peut raisonnablement penser dans ce clip de campagne que c'est bien la voix de Jean-Michel Apathy ou que sais-je, c'est de la parodie.
Bah, même l'accent est supposé être imité.
C'est de la parodie, on est bien d'accord, je crois que tout le monde le voit. Donc et ça le mérite d'être clair.
On peut le faire avec Jean-Luc Mélenchon,
mais attendez,
avec des images et des propos.
Mais c'est déjà fait, il y a de la parodie, on a sur les réseaux sociaux, on a partout. Bon après,
Adrien Quatennens, Jean-Michel Apathy.
Non mais faut, moi bon.
Jean-Michel Apathy a dit qu'il allait porter plainte. Est-ce qu'en attendant, vous allez retirer le clip ou pas?
Mais je crois que je sais même pas si le clip a été retiré ou pas, mais c'est pas le sujet. Enfin, je crois que Jean-Michel Apathy pourrait prendre ça avec un peu d'humour. Nous, il nous en faut parfois pour supporter la manière dont il traite la France insoumise. Vous savez, c'est pas interdit d'avoir un peu d'humour dans la situation. Mais surtout, je veux dire une chose, c'est que qu'on se méprenne pas. Ce clip, c'est un parmi des dizaines de contenus vidéo que nous avons fait pour cet emprunt populaire. Vous dites Jean-Luc Mélenchon l'a lancé, bien sûr Jean-Luc Mélenchon l'a lancé, mais tous les parlementaires, orateurs et candidats de la France insoumise ont fait des vidéos. D'ailleurs, donc je le disais, l'opération est un succès, puisque à l'heure où je vous parle, on a dépassé le million d'euros. C'est-à-dire que l'affaire a démarré dimanche. Non mais notez que c'est un fait politique quand même. C'est la première fois qu'une formation politique lève un emprunt populaire. Alors on donne pas d'intérêt. Hein. Les gens savent qu'ils nous prêtent et qu'on leur remboursera au plus tard dans un an quand la campagne, quand les frais seront remboursés. Mais c'est un fait.
Vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy, c'était même pas un emprunt, c'était des dons qu'il avait sollicités, il avait obtenu.
Mais alors justement, ça qui est bien, c'est que les dons,
c'était considérable.
Non, mais les dons, tout le monde le fait. Alors Nicolas Sarkozy a peut-être la chance d'avoir de gros donateurs. Nous, le don moyen, vous voyez, le don moyen à la France Insoumise est autour de 25 euros. Mais la force, c'est le nombre, le fait que beaucoup de gens donnent. Et surtout, plus que le don, il y a maintenant cette capacité à faire de l'emprunt. Et on peut collecter maximum 2 millions d'euros. On a déjà fait le million. Donc moi, j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller sur finaction.fr et à nous aider pour mener cette campagne.
Il y a un homme qui monte aujourd'hui dans les rangs des Insoumis, Adrien Quatennens, c'est François Ruffin qui a dit lui-même que Jean-Luc Mélenchon l'incitait à ne pas fermer la porte de l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez aujourd'hui non plus un leader, mais deux candidats potentiels à l'élection présidentielle?
Je pense que vous êtes trop modeste. Il y a plusieurs, peut-être dizaines d'orateurs et de leaders qui sont sortis du lot à la France Insoumise. Et regardez ce groupe parlementaire.
Qui pourraient tous être candidats à l'élection?
En tout cas, non mais attendez, pour l'instant... Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, n'est pas contesté au sein de la France insoumise. Je veux dire, c'est notre principal leader,
notre
principal porte-parole.
Le résultat était mauvais le 26 mai.
Mais non, encore une fois.
Un score sous les 10%, par exemple, est-ce que ça remettrait en cause la stratégie qui est la sienne depuis l'élection présidentielle?
Cette stratégie, vous savez, elle est élaborée collectivement. Et d'ailleurs, je crois que Manon Aubry pourrait vous le dire en tant que candidate. Cette femme n'a pas fait de politique avant. Et maintenant, elle s'est engagée à nos côtés. On lui avait dit, tu vas voir, c'est Jean-Luc Mélenchon qui décide de tout, etc. Bon, bah, finalement, elle voit que c'est pas le cas du tout. Elle pourrait vous le dire. Donc, il y a une espèce de fantasme autour de ça. Non, il y a une vraie capacité collective. Jean-Luc Mélenchon est notre principal porte-parole. C'est lui qui a porté notre parole à la présidentielle, qui a recueilli 7 millions de voix. Mais évidemment qu'autour de lui ont émergé plusieurs personnages. François Ruffin en est un. Et puis je vais vous dire, ce groupe parlementaire de 17, il résume pas tout le mouvement, mais vous avez 17 personnages différents, avec des styles différents. Ce qui nous lie, c'est le programme et le fond. François Ruffin défend le même programme que moi. Mais lui et moi, on se complète, on ne s'y prend pas de la même manière. Nous avons des façons de faire différentes. Voilà.
On parlait de financement. François Ruffin,
Film, hein, parce que Je veux du soleil, qui est sorti en salle et qui rend un très bel hommage au mouvement des Gilets jaunes.
François Ruffin.
On leur donne toute leur dignité.
On parlait de financement, Adrien Quatennens. François Ruffin, il a créé un micro-parti qui s'appelle Picardie debout, justement pour collecter des financements. Pourquoi, à votre avis ?
Mais sans doute pour faire de l'action politique, parce que la question se pose après comment vous allouez l'argent dans l'action politique.
Dans son livre, il dit que c'est pour préparer autre chose.
Mais vous savez que François Ruffin, en Picardie, il a été élu dans un cadre un peu spécifique, qui est Picardie Debout, vous connaissez, donc qui est circonscrit à la Picardie. Et donc, il s'est lui-même présenté dans un cadre qui n'était pas un cadre purement François Ruffin.
Je tente une dernière question, même si on est en retard, Adrien.
Peut-être la prise de la Picardie.
Est-ce que vous serez candidat au municipal à Lille?
Alors, la question n'est pas encore tranchée. La France Insoumise, oui, elle sera candidate.
Est-ce que vous êtes candidat à la candidature?
C'est une option, mais la décision n'est pas encore prise. Et je ne vous le dis pas parce qu'il y a une affaire de calendrier, c'est que vraiment, froidement, à cette heure, la décision n'est pas prise. Et quand elle le sera dans quelques mois. Il y a plusieurs hypothèses. La question va se poser. Et quand on aura quelque chose à vous dire, on vous le dira. Mais pour l'instant, vraiment, à cette heure, nous ne l'avons pas décidé, tout simplement.
Merci à vous,
Adrien
Quatennens.
Merci à vous.
Vous étiez ce matin l'invité de France Info.